Le débat du jour. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. C'est tout sauf un scoop, le secteur de la santé est en crise en France. Après les urgences cet été, après la pédiatrie cet automne, c'est au tour de la psychiatrie de se faire entendre. Les psychiatres hospitaliers étaient en effet appelés à descendre dans la rue ce mardi. Ils dénoncent tout simplement l'abandon de la psychiatrie publique via des lits qui ne cessent de fermer, des effectifs qui sont toujours plus insuffisants. La crise est profonde, elle touche les vocations. On estime qu'aujourd'hui, 40% des postes de psychiatres titulaires ne sont pas pourvus dans les hôpitaux. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans la prise en charge de la santé mentale en France? Est-ce qu'un tabou demeure autour de ces questions? Comment avancer? Comment ça se passe également à l'étranger? Voilà nos questions ce soir. Soyez les bienvenus dans le débat du jour.
RFI.
Et pour répondre à ces questions, nos trois invités. D'abord à mes côtés en studio, Jacques Glickman, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychiatre, membre de l'intersyndicale de la défense de la psychiatrie publique et du GHU, groupe hospitalier universitaire de Paris Psychiatrie et neurosciences.
C'est cela.
Voilà, face à vous en ligne ce soir. Tonia Tartour, bonsoir.
Bonsoir.
Maîtresse de conférence en sociologie à Sciences Po Bordeaux, spécialiste des questions de santé mentale et chercheuse au Centre Émile Durkheim. Et Boris Nicole, notre troisième invité, bonsoir.
Bonsoir.
Coordinateur national de l'Association des jeunes psychiatres et des jeunes addictologues et responsable du service de réhabilitation psychosociale au centre hospitalier des Pyrénées. Voilà, merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation de RFI pour ce débat du jour. Alors d'abord, je voudrais commencer par un témoignage cité par un psychiatre du CHU de Montpellier dans une récente tribune au Monde. Voici ce témoignage. Je m'appelle Paul, j'ai 37 ans et depuis les confinements, j'ai l'impression que les choses ne reviennent pas comme avant. Je dors mal, je suis anxieux, parfois un peu triste. J'irais bien voir un psy, mais je me dis que c'est pour les fous ces trucs-là, ou ceux qui n'ont pas de caractère, c'est bien connu. Alors je reste comme ça. D'où ma première question, Jacques Glickman. Est-ce que cette image, voilà, que ce sont les fous qui vont voir un psy, est-ce que cette image, elle perdure encore en France aujourd'hui?
Alors, de moins en moins, en réalité, l'accès aux soins est actuellement assez difficile. C'est la raison aussi des manifestations que nous avons organisées aujourd'hui. Mais la stigmatisation de la psychiatrie, nous luttons contre en permanence. Et un des invités pourra en parler aussi, puisqu'il a beaucoup travaillé. Enfin, les deux autres invités pourront en parler parce qu'ils ont beaucoup travaillé dessus. On distingue quand même deux domaines, un domaine qui est beaucoup plus large, qui est le domaine de la santé mentale, qui ne s'adresse pas particulièrement à des troubles psychiques caractérisés, à des troubles mentaux caractérisés, et la psychiatrie à proprement parler, qui s'adresse plutôt à des troubles mentaux caractérisés.
Oui, parce qu'il peut y avoir une confusion aussi, il y a peut-être un manque de connaissances en France. Qu'est-ce qui est santé mentale, qu'est-ce qui est psychiatrie? Alors, on a tendance à faire un lien entre les deux, alors que la santé mentale, c'est bien plus large.
C'est bien plus large et ça implique beaucoup d'autres professionnels et des non-professionnels avec des modes d'intervention qui peuvent être bien différents.
Tonia Tartour, vous qui êtes maîtresse de conférence en sociologie, spécialiste de ces questions de santé mentale, est-ce que il y a un manque d'information à la question que je posais à Jacques Glickman en France qui fait qu'il y a certaines idées reçues peut-être qui perdurent concernant la psychiatrie, de moins en moins, nous dit Jacques Glickman.
Oui, mais effectivement, il y a un manque d'information et une difficulté de la part du public déjà à reconnaître la différence entre un psychiatre et un psychologue. Moi, c'est une question qu'on me pose souvent. Donc, pour rappel, le psychiatre est médecin, il peut prescrire des médicaments, faire un diagnostic. Le psychologue, c'est davantage pour des consultations où ça va plutôt passer par la parole. Et à l'intérieur de la psychiatrie, il y a effectivement là aussi des profils de patients et des troubles qui sont très variés et qui ont des impacts sur le quotidien des personnes qui vivent avec ces troubles qui sont très différents. Et là aussi, il faut faire, je pense, bien voir la différence entre la psychiatrie publique qui s'exerce surtout à l'hôpital et dans les structures autour de l'hôpital, qui reçoit des patients avec des troubles lourds qui sont handicapants au quotidien dans la vie, et la psychiatrie libérale qui reçoit en cabinet, en ville, des patients dans des consultations ou des thérapies au long cours.
Et est-ce que vous pensez que les Français sont informés de ces différences-là, le savent, ou est-ce qu'ils ne le savent pas suffisamment, ce qui fait que peut-être un tabou demeure autour de la question de la santé mentale en France?
Alors, il est clair qu'il y a des difficultés de la part du public, des consommateurs de soins, à faire la différence et à circuler à l'intérieur de cette organisation des soins, de cette offre de soins qui est parfois pas très lisible. Déjà, la première chose, c'est parce que quand on a soi-même, quand on est soi-même face à une difficulté d'ordre psychique, on ne sait pas forcément vers qui il faut se tourner, ou quand on a un proche qui a une difficulté, on ne sait pas vers qui se tourner. Et ensuite, au-delà de la question de la connaissance de la part du public, je pense qu'il faut surtout appuyer sur la question de l'accès aux soins, puisque toute personne qui a cherché à avoir accès à une première consultation, notamment à l'hôpital public, notamment via les CMP, les centres médico-psychologiques qui sont les centres de consultation, ou qui auraient un proche qui a essayé de trouver une consultation, on voit que les temps d'attente sont extrêmement longs et que évidemment ça freine la prise en charge des patients et de leur pathologie. On a un petit peu le même problème avec la psychiatrie libérale également, puisqu'on voit que dû à la difficulté de trouver un psychiatre en libéral en secteur 1, c'est-à-dire qu'il soit remboursé par l'assurance maladie quasi en totalité, ça fait un retard au diagnostic, à la prise en charge, et donc ça aggrave les troubles. Et évidemment, les consommateurs de soins ont une vision assez parcellaire de cette offre de soins.
Oui, qui n'est pas représentative de la réalité. On va évidemment parler de la question du financement, parce qu'elle est au cœur de ce débat et elle est au cœur de cette journée de manifestation des psychiatres hospitaliers. Mais pour poursuivre sur cette question de l'image, parce qu'elle détermine quand même beaucoup de choses et elle dit certainement beaucoup de choses de la culture française également. Boris Nicole, coordinateur national de l'Association des jeunes psychiatres, notre réalisateur, vous avez dit à notre réalisateur que vous souhaitez réagir sur une image de stigmatisation. Il y a une stigmatisation, selon vous, de la psychiatrie ou plus largement de la santé mentale en France ?
Alors oui, il y a une stigmatisation qui reste présente, une stigmatisation des troubles psychiques, des usagers atteints d'un trouble psychique, des professions aussi. Je rejoins ce qui a été dit précédemment par les autres intervenants, dans le sens où cette stigmatisation, elle tend à s'atténuer dans le temps. Et le témoignage que vous avez mis en tout début, donc la tribune de Nicolas Rinto, un confrère, a permis d'illustrer quelque chose qui s'est passé pendant le Covid. C'est-à-dire que le Covid a été l'occasion d'une prise de conscience de l'importance de la santé mentale. On a vu notamment à l'échelle des villes qui se sont impliquées sur ces sujets-là, et c'est pas pour rien qu'il y a cette semaine le premier colloque ville et santé mentale qui va se tenir à Nantes. Pour autant, c'est un peu en trempe-l'œil. Parce que si sur certaines problématiques, notamment anxieuses, dépressives, la parole peut se libérer, l'accès aux soins reste très difficile du fait de représentations négatives autour de pathologies psychiatriques comme la schizophrénie, comme la bipolarité. Et sur ce point-là, il y a vraiment des actions à mener qui sont cruciales, parce que cette stigmatisation est un facteur majeur de retard d'accès aux soins. Et pour pouvoir améliorer ça, il nous semble qu'il y a un travail de fond à mener, alors avec tous nos partenaires, avec tous les acteurs de la santé mentale, mais aussi en particulier avec les médias. Hein, parce que sur le traitement médiatique de la psychiatrie, des troubles psychiques, je pense qu'il y a des liens à retisser, à renforcer entre les médias, les professionnels de la santé mentale et les usagers de la psychiatrie pour permettre à tout le monde d'avoir accès aux soins dont ils ont besoin.
Tonia Tartour, qu'est-ce que le Covid a changé dans cette approche de la santé mentale en France ?
Alors, je souscris à ce que dit Boris Nicole sur le fait que y a un moment contextuel avec le Covid où on a davantage pris conscience des difficultés que peuvent poser au quotidien le fait d'avoir des troubles de santé mentale, et notamment des troubles anxieux qu'on a vu beaucoup apparaître au moment du Covid. Mais je voulais aussi insister sur le fait que la hausse de la demande de soins et la diversité des raisons pour lesquelles on demande, on recourt aux soins en santé mentale et en psychiatrie, c'est accru ces dernières années. Et il n'y a pas uniquement le Covid. Et notamment, je vois beaucoup dans les CMP aujourd'hui et dans les hôpitaux une file active de patients, et particulièrement de patientes, de victimes de violences. il y a les enfants et les femmes qui sont les deux publics principaux victimes de violences. Et on voit que ben, là aussi, avec la libération de la parole, il y a de plus en plus de personnes, de femmes, d'enfants qui demandent un accès aux soins. Et il y a une très grande difficulté de la part des équipes à orienter vers des structures spécialisées, vers des professionnels qui ont le temps et peuvent prendre en charge ces difficultés. Mmh. Et il y a aussi tout ce qui concerne toutes les difficultés liées à la sphère économique. On voit que le travail aujourd'hui rend malade et on a tous autour de nous beaucoup de gens en arrêt maladie qui ont des difficultés soit avec le management, soit avec la charge de travail, avec l'organisation du temps du travail. Sans doute que le Covid et cette expérience de rester chez soi a modifié aussi notre capacité à supporter tout ça. Et en tout cas, c'est aujourd'hui des nouvelles problématiques sur lesquelles la psychiatrie publique doit se positionner. Et il est très clair que dans l'état dans lequel elle n'est pas en capacité d'absorber ces nouveaux patients, cette nouvelle demande, cette nouvelle file active.
Donc plus de demandes, vous nous l'avez dit depuis le début de la crise du Covid. Je vais citer cette enquête Covid-Prev de Santé publique France, septembre 2021, 15% des Français qui présenteraient des signes dépressifs, 23% des signes d'état anxieux et 10% qui, au cours de l'année écoulée, ont eu des pensées suicidaires. Jacques Glickman, donc il y a plus de demandes, mais moins d'effectifs. Je disais 40% des postes de psychiatres titulaires qui ne sont pas pourvus dans les hôpitaux. Oui. Là, c'est une équation difficile.
Alors, nous avons effectivement donc une hausse de la demande. Et je voulais d'ailleurs rappeler que pendant la période du Covid, les équipes de secteur de psychiatrie ont su faire preuve de capacité d'adaptation et de créativité, ont mis en place un certain nombre de structures, des unités Covid, dans lesquelles à la fois les problèmes psychiatriques et les problèmes somatiques étaient pris en charge, et ont su se réorganiser de manière particulièrement dynamique et active, malgré le caractère dramatique de cette crise. Et nous avons vu aussi, pour dire un mot peut-être de gouvernance hospitalière, nous avons vu à ce moment-là que les trois voies hospitalières que sont la voie médicale, la voie soignante et la voie administrative se remettaient un petit peu à l'endroit par rapport au fonctionnement habituel. C'est-à-dire chacun concourait avec ses compétences à essayer de trouver des solutions pour la crise. Je voulais dire aussi un petit mot peut-être pour la déstigmatisation, peut-être ajouter à ce qu'on dit les autres intervenants. Il y a alors pour les pathologies mentales caractérisées et avérées, là pour le coup, il y a les œuvres de fiction. Je pense notamment aux films et aux séries qui jouent un rôle non négligeable.
Ça va être d'avancer.
Ben, nous avons un certain nombre de diagnostics qui sont parfois revendiqués par certains patients comme des diagnostics, entre guillemets, moins dévalorisants ou plus valorisants. Tiens, je suis bipo. Il y a aussi une représentation du trouble du spectre autistique de haut niveau dans certaines séries qui est une représentation à la fois réaliste et valorisante puisqu'on voit un médecin devenir interne en chirurgie, etc. Et ça joue un rôle dans le ressenti des diagnostics et dans la facilitation de l'accès aux soins, que les diagnostics ressentis par les personnes correspondent à ce que nous diagnostiquerions, nous, ou pas. Donc ça, les œuvres de fiction jouent aussi un rôle.
Et il y a une libération de la parole aussi, non?
Oui, oui.
Ces dernières années, c'est peut-être de moins en moins tabou.
C'est pas négligeable, en tout cas. Donc nous avons vu, au moment de la crise Covid, un hôpital, alors pas seulement en psychiatrie, mais c'est dans lesquels les équipes de direction se mettaient au service des initiatives des soignants et des médecins. Et ça, je pense que ça a permis de tenir. Ensuite, on a vu le fonctionnement habituel de l'hôpital revenir, se remettre en place. Et une certaine désillusion actuellement dans les équipes médico-soignantes à ce sujet.
Cette désillusion, ça explique cette crise d'évocation. On va interroger Bruce Nicole sur ce
point-là. C'est sans doute pas le seul
point-là.
Facteur, mais on a un vrai problème actuellement de fuite. Alors, il y a pour les jeunes psychiatres, les jeunes infirmiers qui ne viennent pas vraiment à l'hôpital, des professionnels en milieu de carrière qui le quittent pour faire un autre métier pour les infirmiers, pour s'installer en libéral pour les médecins. Nous ne savons plus quoi faire pour les retenir ou pour faire venir les jeunes professionnels et pour retenir les professionnels déjà en milieu de carrière. Et ça perturbe profondément le fonctionnement et les capacités d'offre de soins actuellement.
Boris Nicole, vous qui êtes coordinateur national de l'association des jeunes psychiatres et des jeunes addictologues, vous pouvez répondre à la question de Jacques Glickman. Comment retenir ces jeunes professionnels psychiatres?
Vaste question. Et forcément, on s'y est intéressé à l'association. Il y a une large enquête qu'on a faite sur l'attractivité de la spécialité auprès des étudiants en médecine, des internes en psychiatrie et des psychiatres diplômés. On est dans une situation paradoxale en France. Il y a effectivement un manque cruel de psychiatres, notamment hospitaliers, comme ça a été dit précédemment, et on le ressent en termes d'offres de soins. Et pour autant, la France est loin d'être sous-dotée en psychiatres. C'est-à-dire qu'on fait partie des pays de l'OCDE qui ont le plus de psychiatres pour 100 000 habitants. C'est un premier paradoxe. Mmh. La conclusion qu'on peut éventuellement en tirer, c'est qu'il y a quelque chose à revoir aussi du côté de notre organisation. Et donc, on a besoin d'une politique qui soit transversale là-dessus et qui soit volontariste. Il y a de nombreux acteurs qui réclament depuis longtemps une loi cadre pour la santé mentale et une réforme de la psychiatrie, et nous les rejoignons. Mais sur la question de l'attractivité à l'hôpital, alors là-dessus, sur l'enquête qu'on a menée, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Il y a effectivement le manque de moyens humains et financiers, qui est une évidence, j'ai envie de dire. Mais il y a aussi beaucoup d'autres facteurs qui ressortent avant cette question des moyens. Les attentes des professionnels, des psychiatres aujourd'hui qui travaillent en milieu hospitalier, finalement, c'est de pouvoir alléger la charge administrative, hein, de pouvoir retrouver du sens dans leur métier. Et retrouver du sens dans leur métier, ça passe finalement par changer en profondeur les pratiques de la psychiatrie. Alors, changer les pratiques de la psychiatrie, c'est facile à dire, c'est peut-être plus difficile à faire. C'est là où il faut qu'on puisse s'appuyer à la fois sur les initiatives des usagers et sur ce qui se fait à l'international. Dans le monde anglo-saxon, ça fait plusieurs années que des usagers évoquent la notion de rétablissement. Aujourd'hui,
rétablissement.
Le rétablissement, justement, c'est une notion, c'est une manière de concevoir le soin qui ne s'attache pas uniquement à un modèle médical, donc de soigner des symptômes ou de guérir une pathologie, mais de manière beaucoup plus large, de permettre à une personne qui a un trouble psychique de préserver son autonomie, sa dignité, ses droits, et de s'appuyer pour ça sur tous les acteurs de la santé mentale. La psychiatrie, mais pas que. Et également les pouvoirs publics. Il y a la question du logement, il y a la question de l'emploi. Et tout ça, toutes ces pratiques qu'on dit orientées rétablissement, ça implique une transformation profonde de la manière dont nous, professionnels, on s'organise. Donc, retrouver du sens...
Pardon, cette approche plus globale dont vous parlez, on la retrouve dans quel pays ?
Alors, originellement, c'est issu des usagers de la psychiatrie aux États-Unis. D'ailleurs, des usagers qui étaient anti-psychiatrie. Aujourd'hui... c'est une manière de concevoir le soin qui, finalement, est une manière de dire qu'on prend en charge globalement la personne. On ne va pas simplement traiter les symptômes, on va l'aider aussi à pouvoir mener une vie satisfaisante malgré le handicap, malgré les difficultés liées à la pathologie. Hein.
Alors, vous nous avez dit pas mal de choses intéressantes là, Boris Nicole, notamment avec ce parallèle avec l'étranger, mais vous avez évoqué également la question des financements qui est importante. Or, vous l'avez dit aussi, on n'est clairement pas les plus mal lotis en France. La France est au quatrième rang de l'Union européenne. Il y a environ 23 psychiatres pour 100 000 habitants. Évidemment, il y a des fortes disparités. Tonia Tartour, est-ce qu'il faut, je rebondis sur l'exemple notamment de ce qui se fait aux États-Unis, cité par Boris Nicole. Est-ce qu'il faut changer peut-être de paradigme profondément, d'approche de la prise en charge de la santé mentale en France ?
Alors, je ne sais pas s'il faut changer d'approche de la santé mentale, mais en tout cas, oui, il y a un travail à faire et qui attend les psychiatres en premier lieu et les équipes de psychiatrie. Donc, c'est vraiment aux professionnels de se saisir de cette question autour de la redéfinition des tâches et de la réflexion autour de la division du travail au sein d'une équipe de psychiatrie. Pour prendre aussi des exemples américains, si on discute avec un psychiatre américain à l'hôpital et qu'on lui explique ce que fait un psychiatre hospitalier en France, il tombe des nues. Parce qu'aux États-Unis, un psychiatre hospitalier n'est pas chef de service parce qu'il ne perd pas de temps dans des réunions, dans l'animation d'équipe et dans l'administratif. Un psychiatre hospitalier aux États-Unis peut faire de la thérapie, mais il fait des thérapies courtes. Et en fait, il se concentre surtout sur la médicamentation du patient. La question de la thérapie par la parole au long cours est laissée aux infirmiers, aux travailleurs sociaux, aux psychologues. Donc, sur le redéploiement des compétences à travers, parmi les différents membres des équipes, je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir. Ça arrive un petit peu avec les infirmiers en pratique avancée, les IPA, qui désormais existent en psychiatrie et sont formés. Donc, c'est des infirmiers qui font un diplôme d'un an supplémentaire et sont donc formés à represcrire, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire de diagnostic et de prescription de première intention. En revanche, ils peuvent renouveler les ordonnances et modifier la posologie éventuellement. Tout ça se fait en concertation, en discussion avec les médecins. En tout cas, il y a un travail à mener sur cette question-là. Puisqu'on voit bien que malgré les chiffres que vous avez avancés, on voit bien que pour autant les services ferment, les services de psychiatrie ferment parce qu'il n'y a pas assez de médecins. Il y a 5 ans, les services de psychiatrie, les lits de psychiatrie fermaient parce que c'était une demande des tutelles de réduire les budgets et donc de fermer des services entiers. Aujourd'hui, depuis la fin de la crise du Covid, enfin en tout cas la fin de la crise à son apogée, des services de psychiatrie qui avaient fermé pendant la crise du Covid n'ont pas pu réouvrir, non pas parce que les tutelles refusent, mais parce qu'il n'y a plus de médecins pour gérer ces lits-là. Et aujourd'hui, on fonctionne en psychiatrie partout sur le territoire avec des effectifs de sûreté, c'est-à-dire un effectif minimum de médecins et d'infirmiers pour gérer des patients. Ce qui, évidemment, ne peut pas garantir la qualité des prises en charge et, évidemment, constitue une perte de chance aussi dans le rétablissement des patients.
Alors, depuis ce paroxysme que vous évoquez de la crise du Covid-19, il y a eu quelque chose d'important pour le secteur, les assises de la santé mentale et de la psychiatrie, qui se sont tenues en septembre 2021. Il y a eu plusieurs décisions qui ont été prises qui n'ont pas satisfait complètement le secteur. Vous m'en parlerez, Jacques Klickmann. Remboursement de consultation des psychologues, création de 800 postes dans les CMP, on en a parlé, hein, les centres médico-psychologiques, ce sont des structures locales qui sont accessibles gratuitement. Et puis un soutien à la recherche avec un fonds spécial de 80 millions d'euros pour... l'intelligence artificielle, les neurosciences, voilà, plein de dispositifs médicaux, peut-être dont la France, Jacques Glickman, doit s'inspirer. Et aussi, je voudrais vous faire agir sur les exemples de l'étranger que reprenait Tonia Tartour.
Alors, sur les mesures qui ont été adoptées, ce sont des mesures qui sont toutes positives, mais pas du tout suffisantes. Il faut se rappeler quand même que la population française est maintenant d'environ 68 millions d'habitants, et ça n'a pas du tout été anticipé. Quand on a commencé à entrer dans des plans d'économie, c'était à la fin des années 1990. Nous n'avons cessé de subir des plans d'économie. Et environ 30% des lits de psychiatrie ont été fermés dans ces 30 dernières années, un tiers des lits de psychiatrie, sans que les budgets qui étaient dégagés là soient réinvestis dans des structures ambulatoires ou dans d'autres types de structures. Ça a été des économies sèches.
Donc le financement, c'est la priorité.
C'est actuellement, si vous voulez, la priorité des priorités, parce qu'à la limite, nous avons les budgets pour recruter des professionnels dans les établissements. Nous n'avons pas de professionnels à recruter.
Oui, donc actuellement, il y a la crise des vocations.
La priorité des priorités, c'est restaurer l'attractivité de la psychiatrie, notamment de la psychiatrie publique, auprès des médecins et des soignants. Et ça passera par des mesures d'urgence et qui sont, dans un premier temps, des mesures de valorisation financière. Qui sont indispensables puisque les mesures antérieures n'ont pas suffi. Dans un deuxième temps, on peut imaginer effectivement beaucoup de réorganisations, beaucoup des éléments qui ont été cités là, sont tout à fait soutenus par une grande partie de la profession. Les pratiques avancées sont aussi une façon de promouvoir les carrières infirmières et donc peut-être de promouvoir les carrières infirmières et de dynamiser les collectifs de travail. Ça n'est pas une solution pour la pénurie de médecins, mais c'est un enrichissement au service des patients qui permet de leur offrir davantage de prestations et davantage de services et d'élargir la palette de ce qui peut être proposé. Donc, pour le moment, nous avons une crise urgente. Il faut faire en sorte que les carrières redeviennent attractives.
En Ile-de-France, 60 000 à 70 000 personnes, dont au moins 60% sont des malades mentaux, errent en dehors de toute institution et de tout domicile. Ça, c'est votre intersyndicale de défense et de la psychiatrie publique qui l'annonce.
Absolument, absolument. Mais vous le voyez tous les jours si vous prenez les transports en commun, si vous marchez dans Paris ou autour de Paris. Et parmi les personnes que nous croisons, un certain nombre de ces personnes auraient besoin de soins. Il est difficile. Alors, il y a des équipes spécialisées qui ont été mises en place, hein, des équipes psychiatrie précarité, mais les séjours hospitaliers sont très courts par nécessité. Nous n'avons pas suffisamment de lits. Et on a besoin de services d'accompagnement pour la réinsertion sociale de ces personnes. De plus, un certain nombre d'entre elles ont tendance à beaucoup bouger, ne viennent pas au rendez-vous qu'on peut leur proposer à l'issue d'une hospitalisation. Ce sont des problèmes complexes.
Relancer la crise, l'attractivité, en tout cas pour éviter la crise des vocations, mais en même temps, pour avoir plus de financement, il faut savoir absorber aussi le coût de la santé mentale qui est très fort. Les troubles psychiques, c'est la première source de dépenses du régime général de l'assurance maladie.
Il faut les voir comme des investissements.
D'accord.
Il faut les voir comme des investissements parce que vous comptez aussi le coût du handicap psychique causé par les maladies et par le mal-être psychique en termes de santé mentale, le coût des arrêts de travail, le coût des difficultés d'insertion des personnes, c'est énorme. Donc il faut le voir vraiment comme un investissement. Et puis, disons-le aussi, parce que nous sommes soumis actuellement, du fait de la pression, à des grosses tensions dans les services. Nous devons faire extrêmement attention à éviter que ces tensions débordent ne débouchent sur des troubles du comportement dans lesquels des patients pourraient se faire du mal ou faire du mal à autrui. C'est une préoccupation permanente. C'est un investissement. Nous pensons que par un travail bien fait, un travail d'accompagnement bien fait, nous évitons beaucoup de drames au quotidien. C'est difficile à prouver, mais nous pensons que nous évitons beaucoup de drames au quotidien.
Tonia Tartour, l'œil de la sociologue, les dépenses, ces dépenses qui coûtent cher finalement, qui sont importantes dans le domaine de la santé mentale, ce ne sont pas des dépenses, c'est un investissement, nous dit Jacques Glickman, c'est intéressant.
Oui, et puis c'est un investissement même d'un point de vue purement comptable. Il faut se rendre compte qu'à l'hôpital, 95% du budget de fonctionnement de l'hôpital, c'est les ressources humaines. En psychiatrie, ce qui coûte cher, c'est les gens. Il y a très peu de machines qui coûtent cher. Les médicaments, c'est des vieilles molécules qu'on connaît bien et qui coûtent plus très cher. Et donc, le principal, c'est payer les bâtiments, mais en général, les hôpitaux en sont propriétaires depuis longtemps, et payer les gens. Et donc, c'est un investissement parce que c'est aussi de l'emploi et c'est aussi des bonnes conditions de travail pour permettre pour permettre aussi un bon accompagnement des patients. Donc c'est par rapport à d'autres spécialités, c'est en plus un investissement sur lequel il y a un retour assez direct. Et sur la question des financements, je voudrais juste ajouter que évidemment la psychiatrie ne fonctionne pas en vase clos et que il faut mettre ça en lien avec tout le paysage institutionnel du social ou des vulnérabilités. Et on voit que ce n'est pas uniquement la psychiatrie qui souffre, mais c'est aussi l'administration pénitentiaire, c'est aussi le tribunal, c'est aussi le logement, c'est aussi le médico-social. Et tout ça, c'est des institutions qui sont en lien quotidien avec la psychiatrie. Et donc, si toutes ces institutions-là sont toutes dans le même désarroi, évidemment, on ne peut pas proposer des prises en charge de qualité aux personnes, au public qui en a besoin.
On a l'impression finalement que la psychiatrie est parent pauvre de la santé, qui est déjà parent pauvre des services publics en France.
Exactement, je pense que c'est assez bien résumé. C'est le aujourd'hui, il y avait aussi les tribunaux qui étaient j'ai entendu parler de Nanterre, je crois, où il y a eu des mouvements aujourd'hui. Bobigny, on sait que c'est aussi une catastrophe. Et en fait, on voit bien comment ça s'interpénètre. L'école aussi, également, puisque dans plein de conditions de dépistage des troubles des jeunes enfants, l'école intervient. Et on voit bien les difficultés de toutes ces institutions publiques à prendre du temps de coordination entre elles, parce qu'elles n'en ont déjà pas assez pour prendre en charge leur public et n'ont pas les moyens de proposer des prises en charge qui soient de qualité.
Et sachez que cet après-midi, justement, en réaction à cette journée de mobilisation des psychiatres hospitaliers, la ministre déléguée à la Santé, Agnès Firmin-Lebaudo, a dit à l'Assemblée nationale qu'elle promettait une série de rencontres entre le ministre de la Santé, François Braun, et la profession, en vue vue d'un plan d'ampleur, a-t-elle dit.
Bonne nouvelle.
Vous nous dit Jacques Glickman, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Hein.
Merci.
Vous êtes psychiatre, membre de l'intersyndicale de la défense de la psychiatrie publique et du GHU, groupe hospitalier universitaire de psychiatrie de Paris, psychiatrie neurosciences. Merci Tonia Tartour, maîtresse de conférence en sociologie à Sciences Po Bordeaux, spécialiste et des questions de santé mentale, chercheuse au centre Émile Durkheim. Et Boris Nicole, coordinateur national de l'association des jeunes psychiatres et des jeunes addictologues. Merci à vous d'avoir suivi ce débat du jour. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale.